Hello, hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste pour Mademoiselle et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes. Je voudrais commencer cet épisode en vous racontant combien j'adore prendre des douches. Notamment parce que j'adore la mousse bien légère et ludique de gel douche. Mais au fil de mes années en tant que journaliste à écrire sur la mode et la beauté, j'ai appris que ce qui permet de faire mousser gel douche et shampoing, c'est une famille d'ingrédients qu'on appelle les tensioactifs. Dans cette famille de tensioactifs, il y a les sulfates. Et parmi les sulfates, certains sont plus décriés que d'autres. Comme le SLS et le SLES. Mais que signifient ces acronymes barbares? Et pourquoi certains gels douche, shampoings se vendent d'être sans sulfate? Pour démêler tout ça, j'ai fait appel à l'expert Cyril Laurent. Il est docteur en biologie des cellules souches et partage son expertise skincare sur une chaîne YouTube ainsi que sur Instagram. Vous entendrez aussi en fin d'épisode Sophie Strobel. Elle est également biologiste, spécialiste du skincare et elle nous apporte un éclairage passionnant en fin d'épisode. Vous pouvez également la suivre sur Instagram derrière le pseudo démaquillage au pluriel. Dans la vaste famille des ingrédients controversés, on parle beaucoup de sulfates, en particulier des SLS. Qu'est-ce que c'est? À quoi servent les tensioactifs dans une formule en général? Et c'est quoi les sulfates précisément?
Alors effectivement, c'est un vaste sujet. En fait, les tensioactifs, je pense que si on pose la question à des chimistes, comment on fait un produit cosmétique, les tensioactifs sont pratiquement dans tous les produits cosmétiques. On les retrouve dans des crèmes hydratantes. Et on les retrouve dans des baumes démaquillants, dans des huiles démaquillantes. On les retrouve évidemment dans les nettoyants. Alors, peut-être que juste avant, je pourrais expliquer qu'est-ce que c'est un tensioactif, en fait. C'est des molécules qui sont très intéressantes, qui finalement miment aussi des molécules qui sont naturelles, qui nous sont naturelles, qu'on retrouve, c'est par exemple la membrane de nos cellules qui sont comme ça, sont des molécules en fait qui ont une tête qui aime l'eau et une tête qui aime le gras. On appelle ça une tête polaire et une tête apolaire. C'est le nom en chimie. C'est pas très important. Mais en fait, c'est une molécule, en gros, qui aime bien l'eau, qui a une affinité pour l'eau, et une tête qui aime bien le gras. Et en fonction, si je le dis vraiment de façon très simple, en fonction de ce pouvoir à aimer le gras et à aimer l'eau, ça va avoir des fonctions particulières. Donc, typiquement, dans toute la classe des tensioactifs pour nettoyer la peau, il va évidemment falloir avoir des tensioactifs qui aiment beaucoup le gras, mais en même temps qui se rincent bien, parce qu'on veut pas avoir ça sur le visage. Comme au contraire, dans une crème hydratante, il va falloir qu'on ait quelque chose qui va être capable de créer une émulsion. Parce qu'en fait, une crème hydratante, si on arrivait avec un microscope pour la regarder, on verrait que la majorité, c'est des petites gouttes de gras dans l'eau, en fait. C'est comme des petites... des boules, en fait, hein, faut l'imaginer comme ça. Et il faut du coup ces petites molécules à l'interface qui vont organiser le gras ensemble, et l'autre qui va interagir en fait avec la nappe d'eau qu'on appelle la phase aqueuse. Et donc là, la tête de la molécule qui aime bien l'eau va se retrouver justement du côté de l'eau. J'espère que ça fait un peu du sens ce que j'explique.
Mais en gros, les tensioactifs, ils sont là pour faire la mayonnaise, quoi, l'émulsion entre l'eau et le gras.
C'est exactement ça, c'est pour faire la mayonnaise.
Et dans une crème, on veut plus... Enfin, le gras est très important, alors que dans des formules lavantes, un nettoyant visage ou un gel douche ou un shampoing, on a besoin d'une formule qui se rince très facilement, c'est ça?
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans une crème hydratante, ce qu'on veut quand on va utiliser ces tensioactifs qui font partie, en fait, c'est les émulsifiants. C'est pour créer l'émulsion, en fait. Là, on veut qu'il soit là pour créer l'émulsion. On veut pas qu'il soit là pour nettoyer le visage. Ce que moi, je dis souvent à mes abonnés, c'est que finalement, pour se laver le visage, on a des choses qui sont solubles dans l'eau, c'est-à-dire que l'eau peut retirer. Facilement, il y a des choses qu'on peut pas retirer. On sait très bien qu'on peut pas se laver le visage avec que de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est soluble dans de la graisse, dans du gras. Donc, du coup, il faut ces petites molécules qui vont agripper le gras. Et comme ils ont une tête qui aime l'eau, ça va permettre de les rincer et de se détacher, en fait, finalement, du visage, parce que c'est ça qu'on veut.
C'est pour ça qu'on dit que le meilleur moyen de se démaquiller, c'est d'utiliser un baume démaquillant, qui est une formule très grasse, avec des tensioactifs qui démaquillent les fards gras, plutôt qu'une eau micellaire, par exemple, qui est plus aqueuse, et c'est plus compliqué de se démaquiller avec ça, quoi.
Oui.
Ça, c'est la galénique, du coup.
Enfin, alors, évidemment, c'est quand même un petit peu formule dépendante, mais l'idée, c'est toujours le même, en particulier avec le maquillage, et en particulier les solaires, parce que j'espère que vous êtes sages et que vous mettez votre solaire. Faisons la promo des solaires. SPF 50+, les enfants. Mais la majorité des filtres solaires et des produits pour le maquillage, pour qu'ils tiennent bien sur la peau, ils sont solubles dans du gras, par exemple. Donc du coup, pour pouvoir le retirer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du gras. Hein. La graisse aime la graisse. c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a par exemple des huiles démaquillantes ou des baumes démaquillants qui ont en fait une phase grasse très importante. En général, c'est même que ça. le problème, en fait, et c'est pour ça qu'il y a des émulsifiants, des tensioactifs particuliers, en fait, il faut qu'ils aiment beaucoup le gras et qu'ils se rincent bien l'eau, parce que c'est pour ça qu'on peut pas utiliser de l'huile, enfin, c'est pas recommandé, en tout cas, utiliser par exemple de l'huile de coco à la maison, on va voir que ça retire le maquillage, donc après on en fait quoi? Prendre une couche de gras, retirer, exactement. Ouais. Les tensions actifs les plus connus, par exemple, pour faire ça, ce sont les PEG, la famille des PEG. Alors, on essaie de trouver d'autres alternatives. Le problème, en fait, c'est qu'ils se rincent pas très bien. Donc, on finit toujours par avoir un film gras sur le visage. Ce qui est pas optimal, parce qu'à partir du moment où il y a du gras qui reste sur le visage, ben, on a tous ces petits résidus de maquillage, de solaire qui restent à la surface de la peau. Donc, du coup, ça fait pas vraiment le boulot. Mais ça va pas être, d'un point de vue chimique, la même famille qui est utilisée que, par exemple, dans un nettoyant à queue, comme un gel lavant, par exemple. T'auras pas du tout le même type de tension actif. Parce que ta formule de base, en fait, contient très très peu de gras. On en a certains qui en contient, mais la majorité, en fait, ils sont formulés autour de la glycérine, qui est un humectant qui permet de pas trop dessécher la peau. Et c'est là où on va retrouver celui qui est très décrié, qui sont les SLS, par exemple, comme le sodium laureth sulfate.
Bah justement, parlons des sulfates, et c'est pas tous les sulfates. Le SLS, pourquoi est-ce qu'il est décrié?
Alors là encore, je pense que ça vient exactement comme avec le phénoxyéthanol. Dans beaucoup d'articles scientifiques de recherche, quand on cherche en fait à sensibiliser la peau dans les stinging tests, c'est comme ça qu'on les appelle en anglais, sont en fait des tests où on veut sensibiliser justement la peau et on peut utiliser un SLS comme le sodium laureth sulfate, mais très très concentré qu'on va laisser longtemps en fait sur la peau, parce qu'en fait comme c'est un tensioactif, ça veut dire que, comme je viens de le dire, il aime l'eau, il aime le gras, et donc du coup il va retirer tout le gras de la peau. Si on le met à très haute concentration, il va finir par délipider entièrement la peau et donc du coup la peau sera complètement irritée, on abîme la barrière cutanée. Mais évidemment que c'est concentration dépendant. On retrouve quand même beaucoup de produits pas chers. Si vous allez dans les hôtels, vous allez voir, vous regardez tout le temps leur gel douche, leur gel lavant et leur shampoing qui sont à base de SLS. Très souvent parce que c'est les ingrédients les moins chers, et quand c'est mal formulé, ça peut être effectivement assez desséchant. C'est pas forcément irritant, sauf quand on a une peau extrêmement sèche. C'est vrai que c'est pas une très très bonne idée. Mais après, dans des formules très bien faites, en faible concentration, pourquoi pas? L'autre raison, je pense aussi, pourquoi on les retrouve si souvent, c'est parce que ce sont des excellents agents moussants, c'est-à-dire que ça mousse énormément. Mais on peut quand même faire des formules à pH acide, parce que moi, ce que j'explique toujours avec les nettoyants, par exemple, on a des tensions actives qui sont formulées à pH basique. Donc la peau, la surface de la peau, ce qu'on touche avec nos doigts, c'est à pH acide, aux alentours de 5 ou 6. Donc pour vous donner un exemple, quand on croque dans un citron, c'est extrêmement acide. Le pH est aux alentours de 2 ou 3. Donc, c'est très acide. Ce qu'on a dans l'estomac, on a de l'acide chlorhydrique, c'est à pH 1. Donc, je vous recommande pas d'utiliser ce pH-là sur votre peau, sinon, au revoir la peau. Et la surface de la peau, c'est légèrement acide. C'est aux alentours de pH 5,5, 6, quelque chose comme ça. On a des tensions actives qui sont très forts, qui sont pas décriées, parce qu'en ce moment, c'est un peu la mode, alors que c'est franchement pas optimal pour la peau. C'est le savon. Le savon, c'est la réaction de saponification, et le tension actif, en fait, pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit stable, il est forcément à pH basique et à pH 8. Et en plus, ça nettoie très bien. C'est bien pour ça qu'il y a bien longtemps, heureusement maintenant, on a les machines à laver, mais on nettoyait le linge avec le savon de Marseille. Parce que le savon de Marseille qui est à pH 8, c'est aussi un tension actif, en fait, cette réaction de saponification qui permet, en fait, de vraiment bien nettoyer, de bien dégraisser. C'est pour ça que quand on utilise du savon, on a vraiment cette sensation, les Américains disent « quickie clean ». C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'on
ça
a la peau... voilà, ça...
Elle est décapée.
Décapée. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande pas du tout. Et on en parle peu, en fait, hein.
Mais même, très peu. Moi je suis un gros bobo, donc je fais ma vaisselle avec du savon de Marseille, en mode zéro déchet, et effectivement c'est détergent en fait, le savon de Marseille.
Donc, mais ah oui, c'est très très détergent.
Et sur la peau...
Mets des gants.
Oui, je mets des gants, justement. Voilà. J'ai une peau atopique, qui fait beaucoup d'eczéma, et justement, je me dis qu'il y a plein de gens qui se lavent avec ça, tant mieux pour eux et pour elles si ces personnes supportent bien le savon de Marseille pour se laver, mais effectivement c'est relativement détergent, et qu'est-ce que ça fait à la barrière hydrolipidique de la peau par exemple?
Ce que ça fait, en fait, c'est que ça la retire énormément. Ça, c'est le premier truc. Et c'est surtout que ça fout en l'air le pH à la surface de la peau. Et ça, les gens, souvent, n'en ont pas forcément conscience. Mais il y a quand même des études qui ont montré que quand on se lave la peau avec du savon et qu'on met rien après, il faut plus de 8 heures à la barrière cutanée pour retrouver son pH acide. Alors pourquoi le pH acide il est important? Il est important pour plein de raisons. Il est d'abord important pour le processus d'exfoliation naturelle de la peau. Naturellement, notre peau s'exfolie et perd ses cellules mortes. Et ça, c'est conditionné par des enzymes, c'est des petites protéines qui vont manger, qui s'activent en fait à pH acide. Sans ça, sans ce pH acide, elles ne peuvent plus fonctionner. Donc en utilisant en fait du savon, on perturbe ce mécanisme-là. L'autre chose, c'est que comme c'est un nettoyant qui décape énormément, on va retirer l'excès de sébum. Donc pour une peau grasse, pourquoi pas. Pour une peau normale à sèche, comme je dis souvent, le gras c'est la vie. Donc on aime bien le sébum, hein, c'est pas forcément le diable absolu. Et on va aussi retirer les lipides constitutifs de la barrière cutanée, qu'on appelle les lipides interépithéliaux. Sans doute que vous en avez déjà entendu parler, comme les céramides, on va aussi les retirer. Parce qu'en fait, ces molécules nettoyantes, que ça vienne du sébum ou bien qu'il soit vraiment constitutif de notre barrière cutanée, qui fait sa résistance, il n'y a pas de différence en fait. Hein. La molécule va pas faire la différence et va tout retirer. Et le dernier, qui il y a de plus en plus d'études, c'est sur la flore bactérienne à la surface de la peau. En fait, on a énormément de bactéries, bon, on n'a pas que ça, on a aussi des acariens. Les regardez pas, sinon vous allez avoir peur.
C'est dégoûtant.
Oui, c'est ça. C'est pas du tout sympa, mais ça fait partie de nous. Hein. Faut pas oublier qu'on a plus de bactéries sur nous que de nos propres cellules. Hein. Faut pas oublier ça. Et ça fait en fait la flore bactérienne. Et à partir du moment où on utilise ces pH très basiques, on va la perturber. Et il y a potentiellement des bactéries comme les staphylocoques, par exemple, qui vont beaucoup plus proliférer. Donc en fait, en pensant être plus propre, en fait, on fait l'inverse finalement. Et en fait, cette flore, elle est régulée par ça. C'est pour ça que d'ailleurs, sans faire de promotion pour moi, mais je le fais quand même, dans mes produits, j'ai choisi d'utiliser avant tout de l'acide lactique, parce que c'est l'acide lactique qui régule le pH à la surface de la peau et qui garantit ce pH légèrement acide et qui permet en fait de réguler aussi cette flore bactérienne pour qu'on ait plus de bonnes bactéries, entre guillemets, à la surface de la peau, plutôt que des mauvaises. Donc en fait, c'est très très important finalement.
Est-ce que la plupart des sulfates altèrent le pH de la peau ou c'est le cas précisément du SLS?
Alors non, on peut formuler des nettoyants à pH acide aux alentours de 6 avec des SLS. Le seul truc en fait, moi je suis pas un grand fan des SLS parce que on y a énormément maintenant d'ingrédients qui existent. Il y a beaucoup d'alternatives, même des alternatives qui sont pas très très chères. Et donc on peut très bien formuler par exemple des nettoyants sans SLS qui sont très doux à pH acide maintenant. Donc on a pu vraiment, il y avait quelques années effectivement, c'était un petit peu compliqué d'avoir une galénique moussante très très agréable sans SLS. Maintenant on a énormément d'alternatives.
Ok, pouce, il y a un petit mot qu'on utilise qui n'est peut-être pas clair pour tout le monde. Galénique. En cosmétique, on parle de galénique pour désigner l'état, l'aspect physique dans lequel sont mis les principes actifs et les excipients. Excipients, c'est les matières inactives. Grosso modo, ça veut dire est-ce qu'on cherche à obtenir une texture crème, ou bien gel, ou bien mousse, ou un bloc solide comme un savon par exemple. On parle de galénique pour désigner ça, cette texture. Du coup, les sulfates peuvent aider à moduler une galénique pour qu'elle soit plus ou moins mousseuse. Comme on l'a dit, les SLS aident à rendre un gel douche très moussant. Mais d'autres tensioactifs plus doux pour la peau, comme le désylglucoside ou encore le coco-bétaïne, tous deux dérivés du coco, existent également. Mais la mousse est un peu moins importante. Mais comment est-ce qu'on obtient ce genre d'ingrédients qui sont une bonne alternative aux controversés SLS?
Alors ça dépend en fait du sourcing, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensioactifs maintenant qui sont d'origine végétale. Alors moi j'aime pas utiliser le mot d'origine naturelle parce que les cosmétiques ne poussent pas sur les plantes, hein. Vous n'allez pas retrouver votre nettoyant qui va pousser sur le coco, hein, sur le cocotier. Donc en réalité c'est de la chimie, donc il n'y a pas de rationnel à vouloir dire que c'est mieux que quelque chose de synthétique. Mais il y en a beaucoup, oui, qui sont sourcés d'origine végétale et qui sont surtout plus doux pour la peau et qui permettent d'avoir des galéniques beaucoup plus intéressantes. On en a certains, par exemple, qui viennent aussi de l'huile d'olive qu'on retrouve beaucoup dans des huiles lavantes. Alors, ce sont pas à proprement dit des huiles lavantes, mais ce sont en fait souvent des molécules issues de lipides végétaux, de gras végétal sur lequel on colle une autre molécule pour les transformer en fait en tensioactifs. C'est-à-dire que la partie qui aime le gras vient par exemple de l'huile d'olive et la partie qui va aimer de l'eau, ça c'est quelque chose de synthétique qui a été créé par l'homme en fait qu'on va associer.
Je l'ai dit, j'ai une peau très sèche, sujette à l'eczéma et justement maintenant j'utilise plutôt des huiles lavantes et elles moussent beaucoup moins, ce qui est un peu moins agréable. Mais j'ai du mal à dissocier l'idée de la mousse avec la propreté. Pourquoi, à ton avis, on aime tant les sulfate pour la mousse que ça crée. Et est-ce que plus un produit mousse, plus il nettoie? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du bullshit?
Alors effectivement, le côté moussant, ça, je pense qu'on l'a depuis même de notre enfance en fait. Hein, ce produit quand on va prendre notre douche qui mousse énormément, qui fait cette mousse généreuse.
C'est très ludique.
C'est ça quoi. Et puis c'est très sensoriel en fait. Hein, c'est très très plaisant à utiliser. C'est quand même très compliqué d'arriver à formuler des nettoyants qui sont très doux pour la peau et qui moussent pas beaucoup. Parce qu'effectivement, le pouvoir moussant est souvent corrélé aussi au pouvoir délipidant, quoi, c'est-à-dire desséchant. Les deux sont souvent corrélés. On commence quand même maintenant à avoir de plus en plus d'alternatives. Il y en a un, mais alors je pourrais pas te le donner par cœur, qu'on retrouve aussi dans des pains dermatologiques.
Ne pas confondre avec un savon de Marseille.
Exactement, qui n'est pas du tout pareil, mais il y a beaucoup de marques maintenant.
Et qui ressemblent.
Oui, c'est ça, qui ressemblent beaucoup. Ils sont quand même un peu moins moussants, mais on arrive quand même à faire cette mousse presque crémeuse, qui est vraiment crémeuse et très moussante. Alors, ça reste quand même un peu plus lavant, parce que souvent ces marques-là le vendent quand même pour les peaux très sèches. Moi, je les utiliserai pas pour une peau très sèche, mais on arrive quand même à avoir, le plus connu, c'est le Dove, hein, tout simplement. Je sais pas si on peut en parler, mais par exemple, le Dove, c'est un genre de scindé, de pain dermatologique. Et celui-ci, en fait, c'est une base lavante qui reste quand même assez douce, qui va quand même être un peu plus décapante pour une peau sèche, mais qui a quand même cette mousse un petit peu généreuse, un peu crémeuse, en rajoutant en fait des émollients. Tu arrives un petit peu à compenser ça. Ça restera toujours moins moussant qu'un savon. Hein. Ça faut être clair, mais on arrive quand même. Il y a certaines marques là qui se sont assez bien débrouillées et qui arrivent quand même à faire des formules qui, même s'ils sont pas complètement moussantes, avec des agents aussi gélifiants assez particuliers qui vont apporter aussi un glissant. Donc en fait, finalement, on va retrouver cette sensorialité.
En parlant de savon versus pain dermatologique, il y a une autre expression aussi qui peut prêter à confusion, c'est celle de saponification à froid. Est-ce que un savon sur gras, c'est la même chose qu'un pain dermatologique? Et sinon, c'est quoi la différence?
Alors effectivement, ce n'est pas la même chose. À partir du moment où vous avez le mot savon, ça veut dire qu'il y a une réaction de saponification, donc ça veut dire que les tensions actives, les molécules nettoyantes, en fait, sont forcément à pH basique. Donc du coup, vous allez forcément faire remonter le pH de votre peau et ce sera forcément beaucoup plus nettoyant que le reste. L'allégation savon sur gras, en fait, c'est juste que la phase grasse à l'intérieur est beaucoup plus élevée qu'un savon de Marseille classique. Donc effectivement, ça va être un peu moins décapant. Comme je dis souvent, maintenant, nous sommes en 2022, on a énormément d'alternatives et on peut vraiment s'en passer, en fait, finalement, et garder le savon de Marseille, par exemple, comme toi, pour faire ta vaisselle ou pour nettoyer certains vêtements, si on tient vraiment à les nettoyer à la main, quoi. Voilà, quoi. Mais c'est un super détergent, ça fonctionne très bien, ça dégraisse très, très bien. Mais sincèrement, maintenant, en soin de la peau, il y a tellement d'alternatives qui sont beaucoup plus sympas pour la peau.
Après, c'est peu cher aussi. Rappelons-le, un savon de Marseille, un bloc de savon de Marseille, ça dure une éternité et c'est vraiment pas cher, quoi.
Oui, effectivement.
Mais, Et la saponification à froid, est-ce que c'est la même chose qu'un savon sur gras? Enfin, est-ce qu'un savon issu d'une saponification à froid est forcément sur gras?
Alors, d'un point de vue chimique, je connais pas exactement les différences. Mais il doit probablement avoir des réactions, parce qu'en fait on a des réactions chimiques même dans les cosmétiques. La plupart des crèmes, par exemple, il faut les chauffer en fait pour faire l'effet. C'est-à-dire que pour créer l'émulsification, il va falloir en fait chauffer l'ingrédient. Je crois que c'est aux alentours de 80 degrés souvent, et puis ensuite on le fait refroidir. Donc il y a certaines réactions chimiques qui ont besoin de chaleur, il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin en fait. Mais est-ce que ça veut dire que une saponification à froid va être mieux qu'une saponification à chaud? Non, ça reste un savon, et comme je disais, il y a des alternatives. Hein.
Et pour en revenir aux sulfates, comment est-ce qu'on les reconnaît dans une listing key? On a parlé du SLS, est-ce que tu veux bien refaire une petite liste comme ça de qu'est-ce qu'est quoi, celui à partir de coco, celui à partir de sucre, etc.
Alors pour le SLS, c'est assez facile, hein, c'est sodium lauréate sulfate. Et ensuite, ça va être compliqué parce que si je vous fais la liste, je la connais pas par cœur, mais si je la reconnais dans une listing key, mais c'est surtout en fait qu'il y en a plein. C'est-à-dire que t'en as par exemple qui sont faits à partir. Alors c'est classé en fonction de leur charge, mais je sais pas si c'est la peine de rentrer dans tous ces détails. Mais en fait, ça va conditionner beaucoup la façon dont le chimiste va créer la formule. Le plus important, je dirais, c'est avant tout le pH. C'est-à-dire que personnes qui vont acheter en fait les produits, il faut surtout s'assurer que le nettoyant soit à pH acide. C'est surtout ça qui est important. Et ensuite, en fonction du type de peau.
Mais comment est-ce qu'on s'en rend compte, nous, consommateurs, dans le rayon d'un supermarché, si le nettoyant, il est à pH acide ou basique ou...
Bah, c'est bien le problème, c'est que la majorité des marques, justement, ne communiquent pas dessus, et c'est bien dommage. Et aussi, souvent, il y a une confusion, c'est-à-dire qu'ils ils appellent pH neutre. Donc, le pH neutre, d'un point de vue de la chimie, hein, en chimie, c'est pH 7, donc c'est quand même un petit peu élevé.
Pour rappel, le pH optimal de la peau, du visage et du corps se situe entre 4,7 et 5,75.
Il y a certaines marques, ça je l'ai vu en le vérifiant moi-même, avec ce qu'on appelle du papier pH, qui change en fait de couleur. Alors on peut le faire avec des produits liquides, avec les crèmes, etc. C'est franchement pas optimal. Mais il va changer de couleur, et en fonction de la couleur qu'on va avoir, on va pouvoir déterminer à peu près le pH. C'est pas très précis, mais ça permet de savoir à peu près où on en est.
Ça nous rappellera nos cours de physique chimie au collège.
Exactement. Et en fait, on a certains nettoyants qui sont dits à pH neutre, mais pH neutre pour la peau, qui sont en réalité en fait à pH 6. La majorité, en fait, quand on achète des nettoyants de parapharmacie dans pratiquement toutes les marques, ils sont tous en fait à pH 6. Et pour l'énorme majorité que je connais, ils sont même faits sans SLS, avec d'autres tensions actives qui sont un peu plus doux et qui sont du coup beaucoup plus sympas pour la peau, quoi. Disons qu'il faut pas avoir peur des SLS. Et surtout ça, il y a eu, je sais pas pourquoi, une énorme peur. Parce que je pense, là encore, avec ce que on en a parlé dans un podcast avant sur les conservateurs, mais dans certains articles scientifiques, les SLS sont vraiment utilisés pour irriter la peau, parce qu'ils sont utilisés à très forte concentration, pure, pendant longtemps sur la peau. Donc effectivement, hein, même si on utilise n'importe quel nettoyant, on le laisse pendant 20 minutes sur la peau, vous allez voir le résultat catastrophique. Ce ne sont pas des produits qui sont faits pour rester aussi longtemps sur la peau, et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, il y a eu du cherry picking, c'est-à-dire on a pris...
Petite parenthèse pour vous expliquer ce que veut dire Cyril Laurent par cherry picking. Cette expression anglaise, qui signifie littéralement cueillette de cerise, correspond à une technique de rhétorique. Il s'agit de présenter les faits de manière orientée pour donner du crédit à son opinion, en passant sous silence les cas qui la contredisent. C'est une façon biaisée de présenter la réalité.
Et en fait, il y a eu du cherry picking, c'est-à-dire on a pris un ou deux articles en train de dire « Oulala, regardez, comme d'habitude, c'est la dose qui fait le poison, là c'est la dose qui fait l'irritation, il y a certaines formules qui sont très bien en fait avec du SLS. » C'est vrai que moi je suis pas un énorme fan, parce que maintenant, c'est tellement une famille qui est énorme, il y a tellement eu de travail fait aussi par les fournisseurs de tensions actives, maintenant il y en a vraiment une... Il y en a énormément sur le marché, qui sont très intéressantes, et en fait finalement, ce qui va changer, c'est... le type d'ingrédients et comment en fait ils sont associés pour arriver à faire une formule particulière. Les tensions actives, par exemple, qu'on retrouve dans les lotions micellaires, par exemple, ils sont faits à partir de ce qu'on appelle de triglycérides, c'est-à-dire que ça mime un petit peu certaines molécules grasses qu'on a à la surface de la peau. Moi, je les trouve pas géniales parce que ils vont rester sur la peau. On va pas forcément les rincer. On a tendance aussi un petit peu à étaler au lieu de bien nettoyer correctement la peau. Donc moi, je trouve pas ça optimal. Mais c'est vraiment, en fait, c'est tout le jeu de ce que la marque veut faire comme nettoyant et aussi avec les chimistes finalement. C'est-à-dire quelle tension active on va utiliser pour pouvoir avoir tel ou tel galénique. C'est-à-dire on va pas utiliser la même chose si on veut avoir une formule crème. Enfin, on peut peut-être faire une crème moussante, on peut très bien la faire sans SLS, mais ça va pas être avec le même type de tension active que si on veut faire, par exemple, un genre de gelée, par exemple, ou un genre de gel lavant. On peut faire un gel lavant non moussant, comme on peut faire un gel lavant légèrement moussant. Il y a plein d'alternatives, et c'est en fonction de ça, en fait, que les tensions actives vont être utilisées.
D'ailleurs, j'y pense, petit rappel, la plupart des nettoyants doivent être rincés, y compris l'eau micellaire.
Tout à fait.
Et à ton avis, pourquoi les fabricants ne le précisent pas toujours ?
Ils ne précisent pas parce que je pense que, historiquement, hein, je pense qu'on peut le dire, hein, l'eau micellaire a été inventée par Bioderma, avec un tension actif qui est extrêmement doux. Et justement, l'idée, c'était de se nettoyer le visage sans eau avec un coton. C'était un petit peu ça, l'idée. Donc il y en a effectivement qui sont un peu plus sympas pour la peau, mais c'est pas optimal. Donc c'est toujours pareil, quand on s'intéresse vraiment aux soins de la peau et que on veut vraiment changer sa peau et la rendre vraiment beaucoup plus jolie, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, limiter un maximum l'irritation de la peau, il est plus que recommandé en fait de les rincer, parce que ces tensions actives vont rester à la surface de la peau, quoi.
Et donc continuer à la délipider.
Ils peuvent continuer à la délipider, et puis c'est surtout qu'on va pas forcément bien la nettoyer, parce que c'est toujours pareil, quand on va même utiliser des cotons, sauf si on utilise une quantité astronomique. En fait, le facteur de dilution, bah, il est beaucoup moindre que quand on va utiliser de l'eau. Quand on utilise même une eau micellaire, on peut, hein, si vraiment on aime ça, on peut le faire le matin. Même d'un point de vue écologique, moi, je trouve pas ça vraiment top parce que du coup, on va utiliser un coton. Après, on peut utiliser, maintenant, il y a ces espèces de pads. Là, j'en ai testé quelques-uns pour essayer de trouver des alternatives. Beaucoup sont quand même un peu irritants. C'est-à-dire qu'on sent vraiment, on a presque une légère exfoliation. Chose que moi, je n'aime pas tellement. Je trouve pas ça optimal pour la peau. Après, on va de nouveau se rincer. Vraiment, maintenant, sur le marché, quand on cherche bien, quand on les connaît bien, moi, j'ai beaucoup de recommandations, même sur mes réseaux sociaux. Il y a vraiment des nettoyants extrêmement doux qu'on peut rincer avec l'eau, qui vont pas être irritants, qui font très bien le travail et qui vont vraiment permettre de bien retirer tout ce qu'il faut retirer et en même temps de faire en sorte qu'il n'y ait plus de traces de tension actifs potentiellement irritants, quoi.
Ok. Oui, en fait, eux aussi, ce qu'on fait, si on rince pas, c'est qu'on déplace juste la saleté quelque part.
Oui, exactement. Il y avait... C'était quand ? J'avais forcé un peu sur le maquillage pour filmer une de mes vidéos YouTube, bon, pour des problèmes d'éclairage, j'essaie de chercher des solutions. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais pas sortir avec cette croûte de maquillage, donc j'ai utilisé une micellaire qu'on m'avait envoyée. Et on voit bien, quoi, on déplace en fait. Hein. Donc il faut utiliser un coton, deux cotons, trois cotons, quatre cotons, enfin bref. Puis après, on a un espèce de build-up, finalement, on accumule, quoi, le produit, l'eau micellaire... aussi, comment dire, même si on utilise une super eau micellaire, soi-disant non irritante, etc. Enfin, vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. Quand on utilise une bonne routine, c'est vrai que moi, je recommande en particulier le soir le double nettoyage. Alors, pas pour vous faire acheter plus de produits, mais parce qu'avec une bonne huile démaquillante ou un bon baume démaquillant, ça permet vraiment de retirer l'excédent de maquillage. Ça solubilise le maquillage en deux secondes. Deux crèmes solaires, toutes les impuretés. Après, on utilise un nettoyant super doux. Ça permet vraiment d'avoir une peau super propre et en même temps pas du tout abîmée et irritée avec les bons produits, quoi.
J'avoue, c'est là où je suis un mauvais élève. Je fais pas le double nettoyage. Alors que je mets mon solaire tous les jours. Mais du coup, je m'enlève pas très bien, ça veut dire. Et qu'est-ce qu'on doit retenir d'essentiel autour des tensioactifs et des sulfates en particulier, et du SLS précisément?
Bah, sur les tensions actives, c'est grâce à ça qu'on a nos cosmétiques. Clairement, si on n'aurait que des produits 100% aqueux, comme certaines lotions hydratantes, certains sérums hydratants, et encore, il y en a certains parfois qui ont certains tensions actives pour des raisons de galéniques, etc. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais il faut vraiment pas en avoir peur. C'est grâce à ça qu'on a nos cosmétiques. C'est une classe extrêmement importante. Il me semble que les chimistes, quand ils font leurs études, les premiers ingrédients qu'ils apprennent à s'en servir, quoi. Parce qu'on s'en sert pour les nettoyants, pour les crèmes, pour plein d'autres types, pour les crèmes solaires, etc. Enfin, on les retrouve pratiquement dans tous les produits. Donc, faut pas en avoir peur. Après, pour les SLS, disons que maintenant, en 2022, il y a beaucoup d'alternatives qui sont plus intéressantes. Mais de là à dire que c'est le diable sur Terre, non. Comme toujours, c'est vraiment la dose qui fait le poison et le côté irritant et sensibilisant. Il faut pas en avoir peur. C'est juste qu'il y a des meilleures alternatives, beaucoup plus intéressantes maintenant.
Les dessous de l'index. Bonjour ou bonsoir. Vous vous apprêtez à écouter Les dessous de l'index. Une chronique destinée à celles et ceux qui prêtent attention à la formulation des produits cosmétiques et à leurs impacts sur notre planète. Ce deuxième épisode sera dédié aux impacts de la fabrication des cosmétiques. Une démarche éco-responsable en termes de fabrication, cela représente 2 points sur les 20 que compte le Green Impact Index. Mais d'abord, le Green Impact Index, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un indicateur inventé par le groupe Pierre Fabre pour évaluer l'impact sur la planète et la société des produits cosmétiques. Le score de chaque produit est d'abord obtenu à partir de 20 critères environnementaux et sociaux, puis résumé en une seule lettre, A, B, C ou D. Mais revenons à la fabrication. Pour obtenir tous les points liés à cette étape de la vie du produit, 3 critères sont indispensables. Mais je m'attacherai seulement au plus innovant d'entre eux, l'extraction de l'actif végétal réalisé sans solvant. Pour que tout le monde soit au même niveau d'information, sachez qu'un principe actif est un ingrédient qui possède une activité centrale dans la formule d'un cosmétique. Il est en effet à l'origine de son efficacité et de ses bénéfices pour la peau ou le cheveu. L'extraction sans solvant chimique est l'une des conditions les plus exigeantes en matière de fabrication d'un actif. Et pour y parvenir, Pierre Fabre utilise une technologie d'extraction issue des principes de la chimie verte. C'est la Green Native Expression. Ce procédé permet une extraction de l'actif sans aucun type de solvant, mais aussi sans apport d'eau. En effet, avec ce procédé, c'est l'eau de la plante fraîche elle-même qui sert de solvant. Cela permet d'extraire l'actif pur grâce à une action mécanique sans aucune transformation. Voilà! J'espère vous en avoir appris davantage sur la fabrication des produits cosmétiques. J'espère aussi que vous aurez envie d'en savoir plus sur le Green Impact Index. Vous pouvez le retrouver sur les fiches produits des sites web d'Eau Thermale Avène, de Ducré, de Chlorane ou encore d'Elgidium. La méthodologie de l'index est validée par AFNOR Certification, un organisme chargé de vérifier que les entreprises ne nous racontent pas de blabla. Voilà qui devrait permettre à chacun de choisir ses produits en toute connaissance de cause, en accord avec ses convictions et de consommer de manière plus responsable. Ma chronique est terminée. Je vous laisse reprendre le cours de votre vie plus instruit. À très bientôt.
Les dessous de l'index.
Merci beaucoup à Cyril Laurent pour son éclairage. Entre-temps, une autre question m'est venue concernant les sulfates et leur impact sur l'environnement. Et j'ai pu la poser à la biologiste Sophie Strobel, alias Démaquillage au pluriel, sur Instagram. Car si le grand public commence à bien connaître le SLS et le redouter pour son côté irritant chez certaines peaux, un autre sulfate s'avère controversé, le SLES, car sa production pollue. On le reconnaît dans Linky par son nom complet, lauryl éther sulfate de sodium, ou SLES pour les intimes. Parmi les sulfates, est-ce qu'il y en a qui sont plus dangereux pour l'environnement que d'autres ?
Alors, la plupart ne le sont pas, puisqu'ils sont dérivés de ce qu'on appelle des alcools gras, qui sont issus d'huile de coco ou d'huile de palme. Et par une réaction chimique verte très, très simple, et ils ne sont pas persistants dans l'environnement. Mais il y en a un qui est un peu plus problématique, qui s'appelle le SLES, sodium laurate sulfate, qui, au niveau de sa synthèse, fait intervenir une réaction d'étoxylation, qui est en fait avec un gaz qui est assez toxique et qui nécessite aussi... il est très énergivore, on va dire. Donc au niveau de la synthèse de ce SLES, c'est un peu plus problématique. Donc si on a envie de faire attention à l'environnement, c'est celui-ci que l'on évitera.
Et comment est-ce qu'on le reconnaît dans la listing key, tu l'as dit ?
Oui, alors c'est le sodium laurate, L-A-U-R-E-T-H, à ne pas confondre avec le sodium lauryl sulfate, qui est celui qui est le plus connu et sur lequel il n'y a pas de problèmes environnementaux. Le sodium lauryl sulfate, on l'utilise souvent pour des formules un peu plus douces parce qu'il est un peu plus doux que le précédent.
C'est que j'ai l'impression que... Enfin, moi j'ai une peau hyper atopique et du coup j'ai retenu que le SLS, c'était relativement irritant pour beaucoup de peaux. Du coup, c'est l'un des sulfates que j'évite.
Ouais.
Mais le SLES, j'ai pas du tout retenu qu'il était mauvais pour l'environnement parce que ça s'est pas dit par la marque, évidemment.
Mais il est plus doux.
Mais il est plus doux, d'accord, c'est ça que tu disais. Donc en fait, celui qui est plus doux, le SLES, il est plus mauvais pour l'environnement.
Exactement.
Et le SLS, qui est potentiellement irritant pour certaines peaux, pas toutes les peaux, évidemment, il y en a plein qui le tolèrent très bien. Puis de toute façon, on rince ce produit assez rapidement.
Exactement, et puis ça dépend des doses, ça dépend du reste de la formule, c'est toujours la même chanson.
Évidemment. Eh bien, celui-ci, il est tout à fait OK pour l'environnement puisqu'on le produit par chimie verte.
Voilà. Donc, il faut savoir que les tensioactifs sulfatés, certains d'entre eux sont autorisés par des référentiels bio parce qu'il n'y a pas vraiment de problème au niveau environnemental. Et puis en plus, il n'y a pas vraiment d'équivalent en termes d'efficacité, de densité de mousse, de stabilité, de performance, etc. Le SLES n'est pas autorisé en bio parce qu'effectivement, il dérive aussi d'huile de palme ou d'huile de coco. Mais en revanche, on va faire une réaction chimique dessus qui, pour le coup, n'est pas très green. Elle fait intervenir un gaz qui est assez toxique. Donc, c'est moyen pour l'environnement au niveau de sa production. Pas au niveau après environnemental de la persistance dans l'environnement, mais plus au niveau de la production. Mais effectivement, le SLS, par exemple, est tout à fait autorisé en bio. Donc, la question qu'on se pose peut-être pas assez, c'est... Je vous ai dit qu'ils étaient synthétisés à partir d'huile de palme et d'huile de coco, mais comment sont récoltées ces huiles ? Vous connaissez tous les scandales qu'il y a au sujet de l'huile de palme, la déforestation, les problèmes sur les orang-outans, etc. Sur l'huile de coco, il y a parfois, je vais vous faire peur, mais il y a parfois des histoires de petits singes esclaves qui vont ramasser les cocos, etc. Et ça, c'est important, si vraiment la partie environnementale vous préoccupe, c'est important de savoir si au niveau du sourcing de ces tensions actifs, qu'ils soient dans le bio ou non, est-ce que c'est un sourcing dans des forêts éco-gérées ? Est-ce qu'il y a de l'éthique au niveau du sourcing de ces huiles de palme ou de coco ? Et ça, vous pouvez peut-être le demander aux marques que vous achetez.
Directement
Oui.
Au service client ou sur Instagram,
voilà.
Alors, etc.
Peut-être qu'il mettra un peu de temps à vous répondre parce que ce n'est pas une question très habituelle. Mais le vrai souci environnemental, il est là. Et donc, il n'y a pas de différence entre le bio, le naturel ou que sais-je. Les tensions actifs, quels qu'ils soient, en tout cas les tensions actifs sulfatées, ils sont issus de coco ou de palme.
Ok, donc si je résume, le SLES est plutôt à éviter car sa production pollue pas mal. Mais même pour d'autres sulfates, beaucoup plus doux, à base de dérivés de coco, ça peut valoir le coup de s'interroger sur les conditions d'obtention de ces fameuses noix de coco. Car elles peuvent avoir été cueillies par des enfants ou des singes maltraités, dans un circuit de culture trop intensive. D'où l'importance de poser des questions aux marques, afin par exemple de leur demander si leurs ingrédients d'origine végétale sont issus de cultures durables, de forêts gérées durablement. En fait, il y a plein de sulfates différents et de tensioactifs non sulfatés. Mais pas besoin de chercher à tous les retenir, hormis les controversés SLS et le SLES. Puisque, de toute façon, on en combine souvent plusieurs au sein d'une même formule.
Il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Je ne vais même pas vous les citer parce que je vais vous embrouiller avec des noms compliqués. Ils ont tous des noms compliqués. Et les autres, grosso modo, ils sont souvent un petit peu plus doux, mais du coup moins moussants. Parce que c'est vraiment... Mais s'ils sont moins moussants, ils sont moins décapants. En fait, alors déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'utilise jamais un tensioactif seul. C'est toujours souvent deux tensioactifs avec un co-tensioactif. Voilà, on fait des mélanges pour optimiser un petit peu à la fois la sensorialité, la tolérance, l'efficacité. Donc on utilise souvent des tensioactifs non sulfatés et ils vont être en général plus doux, donc moins efficaces, entre guillemets, moins décapants, mais à la limite, on s'en fiche parce qu'il faut se sortir de l'idée que pour avoir une peau propre ou des cheveux propres, il faut que ça mousse et il faut que la peau crisse ou que les cheveux crissent. Non. D'ailleurs, d'une manière générale, le consommateur a tendance à trop se laver, à avoir envie d'avoir une peau trop propre et c'est contre-productif. Et notamment les personnes qui ont la peau grasse. Voilà, j'ai envie de dire less is more. Et si ça mousse pas beaucoup, c'est pas grave et tant mieux. Donc pour moi... Les autres tensioactifs un peu plus doux, c'est vraiment plus intéressant sur des peaux qui sont déjà inflammées, comme l'acné ou des peaux irritées, sensibles, etc.
Oui, mais en fait, là, on a quand même envie de savoir les noms inky de ces tensioactifs non sulfatés. Mais c'est ce qu'ils sont communs, en fait, dans le commerce.
Oui, c'est très commun. Et comme il y en a des dizaines et des dizaines, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a, par exemple, toute la famille des sucres. Qui sont être le coco-glucoside, cétéryl-glucoside, décyl-glucoside. On en a un qui est un co-surfactant qui est souvent utilisé avec les sulfates, mais pas forcément, qui s'appelle le cocamidopropylbétaïne, que vous allez beaucoup trouver dans vos gels douches et vos shampoings. On peut avoir le sodium lauryl-sarcosinate. Enfin, il y en a tellement. J'ai peur de vous embrouiller. En fait, il y en a plein, en fait.
Ouais, et donc ceux-là, ceux qui sont plus doux et qui moussent moins, et qui sont des tensioactifs non sulfatés, est-ce qu'ils sont polluants pour l'environnement ? Au niveau de la production, au niveau de la fin de vie, une fois qu'ils sont rincés dans nos salles de bain ?
Alors, il faudrait les regarder un par un. Donc là, je n'ai pas la réponse pour chacun d'entre eux. Je ne crois pas, mais je t'avoue que je me suis penchée que sur les ingrédients polémiques. Hein, donc,
oui, donc ils ne sont pas controversés pour le moment.
Ils ne sont pas controversés particulièrement, ce genre d'ingrédients. En tout cas, pas pour la santé, ça c'est sûr. En plus, comme tu le disais tout à l'heure, ce sont des produits qui se rincent. Donc de toute façon, le contact avec la peau, les cheveux, c'est de l'ordre de quelques secondes.
Oui, mais il y a une grosse bêtise que je faisais avant, c'était avec les shampoings nourrissants. Je l'ai laissé poser longtemps en me disant « Ouah, ça va mieux nourrir mes cheveux !» Alors qu'en fait, ça m'irritait le cuir chevelu.
Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a une question qu'on se pose pas assez au sujet des tensioactifs. C'est la rinçabilité. Parce que dans le cycle de vie total du produit, dans l'empreinte écologique totale, finalement, ce qui est le plus problématique potentiellement, c'est pas la formule, c'est pas ce que j'ai des tensioactifs sulfatés ou pas, c'est un peu le pack, mais c'est surtout... l'eau chaude qu'on utilise pour rincer son shampoing, notamment, plutôt le shampoing que le gel douche. Et c'est vrai que si le tensioactif il se rince mal, vous allez utiliser plus d'eau chaude et c'est ça qui impactent le plus l'environnement. Et voilà. Donc, faut faire attention. Et c'est notamment, je pense notamment à toutes les alternatives de shampoing solide, par exemple. C'est super qu'on aille là-dessus parce que ça évolue assez vite. On arrive à avoir des formules maintenant qui sont pas trop mal. Bon, moi, j'y vais pas encore. Hein. Je trouve que c'est pas encore au point, mais on va y arriver. Mais il y a un vrai challenge sur ces formules solides de shampoing, c'est la rinçabilité. Parce que souvent, on met du temps à les rincer. Et au final, toutes les économies que l'on fait sur le packaging, le fait qu'il n'y ait pas d'eau, donc c'est moins lourd à transporter pour l'empreinte carbone, eh ben on le perd avec le fait que ça se rince mal et qu'on utilise beaucoup d'eau chaude.
Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les sulfates. Ils servent à faire tenir ensemble la phase aqueuse et la phase grasse d'une formule, un peu comme le jaune d'œuf dans la mayonnaise. Globalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que les sulfates servent surtout d'agents moussants dans les nettoyants, gel douche ou shampoing, donc c'est des produits qu'on rince rapidement. Si on les laissait poser longtemps, là, ils pourraient devenir relativement irritants pour les peaux les plus sèches ou réactives, car ces ingrédients sont là pour avoir un effet détergent, tout comme peut l'avoir le savon de Marseille d'ailleurs. Le SLS, c'est-à-dire le sodium lauryl sulfate, compte parmi les plus utilisés, car il est très bon marché et produit une mousse abondante, mais il est très délipidant, c'est-à-dire qu'il dégraisse beaucoup la peau, ce qui peut l'assécher et la fragiliser. Toujours dans la famille des sulfates, celui qu'il vaut mieux éviter, c'est le SLES, c'est-à-dire le lauryl éther sulfate de sodium. Car même s'il s'avère un peu moins irritant pour la peau que le SLS dont il dérive, c'est la production du SLES qui pose question car elle pollue. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'un produit mousse beaucoup qu'il lave mieux. Aujourd'hui, on sait utiliser plein d'autres tensioactifs beaucoup plus doux pour la peau que les controversés SLS et SLES, comme le déthylglucoside ou encore le cocobétaïne, tous deux dérivés de coco, mais qui produisent une mousse moins volumineuse. C'est pour ça qu'il est important qu'on apprenne en tant que consommateur à se détacher de l'envie de transformer sa baignoire ou sa douche en soirée mousse. Merci encore aux biologistes Cyril Laurent et Sophie Strobel pour leur éclairage. Et dans le prochain épisode de Matières Premières, on parlera des ingrédients dérivés de la pétrochimie qui composent bien plus souvent qu'on ne le croit nos produits skincare préférés. Quand on met du baume à lèvres ou de la vaseline sur sa bouche, est-ce qu'on risque vraiment d'avaler du pétrole ? On y répond la semaine prochaine. D'ici là, crémez-vous bien.